Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale amiennoise qui passe sur 87.7 FM et sur le DAB+. Aujourd'hui, dans une première partie d'émission, Rémi reçoit William Tessier, chargé de communication et médiateur culturel au Ciné Saint-Leu. Il est venu nous parler de la programmation de mai et juin.
William, bonjour, comment vas-tu ?
Salut Rémi, ça va et toi ?
Ça va super, merci. Alors, on va peut-être commencer avec les temps forts de la programmation du Ciné Saint-Leu du 15 mai au 18 juin. Le premier film dont tu avais envie de nous parler, c'est Comme un lundi. Est-ce que tu pourrais me présenter ce film ?
Oui, alors c'est un nouveau film japonais de Ryo Takebayashi, qui est un film de boucle temporelle. Donc souvent, c'est un genre qu'on aime bien. Nous aussi, au Ciné Saint-Leu, c'est des films qu'on aime montrer. On vous avait montré Un jour sans fin l'année dernière. Et donc là, c'est vraiment un pur film de boucle temporelle où en fait, on va suivre des employés d'une compagnie bloquée dans la même semaine, encore et encore, au bureau. C'est un film très drôle où, en fin de compte, parce que du coup, c'est un huis clos. Parce qu'Un jour sans fin, même des films comme Source Code, qui sont plus récents, étaient des films de boucle temporelle, mais qui s'amusaient des lieux, les personnages pouvaient évoluer, changer de direction. Là, on est vraiment face à un film de boucle temporelle où ils sont coincés entre quatre murs et vont devoir trouver comment se sortir de cette horrible boucle temporelle qui se répète, où chaque dimanche, ils reviennent au lundi précédent. Et voilà, c'est un film à tiroir très, très intelligent, très drôle, ça dure 1h23. Et c'est vraiment un chouette film qu'on conseille beaucoup. On l'a montré à des étudiants, notamment de 20-25 ans, et ça a été l'un de leurs coups de cœur récemment. Donc voilà, pour les 15-30 ans, c'est vraiment le film à pas rater en cette fin du mois de mai.
Chouette. Il y a aussi un film qui, moi, m'a fait un petit peu de... Enfin, m'a tapé à l'œil, c'est Love Lies Bleeding, qui est donc le film que vous avez mis à l'affiche, hein, de
en
cette
couverture, ouais.
En couverture. Est-ce que tu pourrais me présenter ce film ? C'est aussi votre coup de cœur, d'ailleurs.
Complètement. En fait, c'est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Rose Glass, qui avait un peu pâti du confinement, puisque son premier long-métrage, et précédent finalement long-métrage, Saint-Maude, était sorti finalement directement en VOD, donc sur les plateformes, qui avait pourtant une vie toute tracée en salle, et qui avait déjà du coup tapé dans l'œil de l'équipe du Ciné Saint-Leu. On était très triste de du coup pas pouvoir sortir le film en salle, et là elle revient avec en plus un casting un peu plus conséquent que le premier, puisqu'on a quand même Kristen Stewart dans l'un des premiers rôles que beaucoup ont connu avec Twilight, mais qui, comme Robert Pattinson de l'autre côté, ont fait leur petit bonhomme de chemin et ont vraiment fait des choix de carrière super intéressants, des films d'auteur très 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 pointus. Et c'est là finalement le cas avec Love Lies Bleeding, où en fait on va suivre du coup Kristen Stewart, qui est Lou, qui est gérante solitaire d'une salle de sport, et qui va faire la rencontre de Jackie, une culturiste, qui va débarquer dans un patelin perdu en plein Texas des États-Unis, et qui va du coup tomber sur le personnage de Lou. Et Lou, elle a un père et une sœur. Le père a un stand de tir, la sœur est dans une relation abusive avec un mari qui la violente. Et en fait, tout ça va créer une sorte de bouillotte, où à un moment donné, ça va exploser. Je vous en dis pas plus, parce que c'est vraiment l'un des twists finalement du début du film, et qui va plonger ces deux héroïnes dans de la violence et de la vengeance. C'est complètement fort, c'est un film très queer. On est vraiment content de vous le montrer parce que ça fait partie de ces cinéastes américains finalement qui, malgré les gros budgets, malgré les stars, parce qu'il y a quand même, donc on l'a dit, Kristen Stewart, Cathy O'Brien qui commence un peu à faire son bout de chemin, mais aussi et surtout Ed Harris et Dave Franco qui sont des acteurs très, très très connus et reconnaissables. Et on est aussi super content quand on a des films comme ça, entre guillemets, à gros budget, mais qui sont vraiment de la RSC à 3000%, et qu'on est en plus de ça, voilà, très fiers de vous montrer en sortie nationale du coup dès le 12 juin. C'est vraiment à ne pas rater, et ça va pas vous laisser entre guillemets indifférent à la sortie.
Un autre coup de cœur du mois, c'est Rendez-vous avec Pol Pot, qui, si je ne me trompe pas, est sélectionné au Festival de Cannes. Est-ce que tu pourrais me le présenter ?
Complètement, il est sélectionné dans la catégorie donc Cannes Première, qui est une sorte de catégorie avant-première coup de cœur du festival. Nouveau film de Riti Pan, qui du coup est un réalisateur franco-cambodgien, enfin cambodgien, parce qu'il est né là-bas, mais il a fait ses études finalement en France, il est francophone, et qui là en fait, donc il a beaucoup mis, ayant vécu l'occupation des Khmers Rouges au Cambodge quand il était enfant, c'est toujours des thèmes qui ont été très marquants dans sa réalisation, découvert en plus à l'époque par le FIFAM, faut remettre l'église au milieu du village. Riti Pan, c'est un des premiers cinéastes que le FIFAM a vraiment été cherché, montrer, ils ont été finalement dans les premiers à montrer ces films en France, donc c'était vraiment super important pour nous finalement de montrer ce dernier film. Et on va suivre du coup le Cambodge sous le joug de Pol Pot et des Khmers Rouges, et où trois Français ont accepté l'invitation du régime et vont obtenir un entretien exclusif avec Pol Pot. Donc du coup, on va suivre, notre entrée va être finalement ces trois journalistes-là. Et voilà, c'est un film qui est très fort, qui est encore une fois dans toutes les valeurs et dans l'envie d'un cinéma que nous, on défend au Ciné Saint-Leu depuis bientôt presque 25 ans. Et cerise sur le gâteau, on aura le plaisir de recevoir E.T. Pan le vendredi 7 juin à 20h pour une séance très spéciale. Donc le film sort le 5 juin de manière en sortie nationale, donc au Ciné Saint-Leu également. Et le vendredi 7 juin à 20h, pour les spectateurs, spectatrices qui seront là, vous aurez le plaisir de pouvoir échanger avec le réalisateur à l'issue de la projection, et ça, on en est super fiers.
On est justement en pleine période du Festival de Cannes. Je vois qu'il y a pas mal de films sélectionnés qui vont être diffusés au Ciné Saint-Leu. Est-ce que tu pourrais m'en présenter peut-être un autre de ces films? Je vois qu'il y a le deuxième acte.
Oui, le deuxième acte, complètement. Oui, j'étais en train de me demander, mais quel film on a de Cannes? Mais oui, complètement, le deuxième acte. Donc, nouveau film de Quentin Dupieux, qu'on a eu le plaisir de vous présenter le 14 mai au soir, avec la retransmission de la cérémonie d'ouverture, que là, du coup, on n'aura pas en national, mais en décalé, donc à partir du 5 juin. Nouveau film de Quentin Dupieux, il continue son expérimentation du cinéma, il est de plus en plus méta, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à des films qui ont conscience d'être des films, et face à des acteurs qui ont conscience de jouer des personnages devant une caméra. Il pousse encore, pour ceux qui ont vu Dali en février dernier, il va encore plus loin dans ce dispositif-là. C'est compliqué de vous en parler davantage, parce que même lui, finalement, la bande-annonce a été créée exprès pour être une bande-annonce. Jusqu'au 14 mai, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait voir. Voilà, ça a le mérite de durer 1h24, donc même pour les moins téméraires d'entre vous, dites-vous que ça va vous prendre qu'1h24 de votre vie. Mais voilà, c'est toujours intéressant et intriguant de découvrir un nouveau film de ce cinéaste si particulier, et qui, on l'espère, va trouver un autre axe de direction, parce qu'à un moment donné, son gimmick va commencer... Un chouïa le cas là avec le deuxième acte, mais il va falloir qu'il prenne du temps pour lui et qu'il réfléchisse à ce que sera le prochain film. Parce que là, du coup, c'est quand même le troisième film en 10 mois qui sort.
Oui, ça fait beaucoup. Des films assez courts aussi chaque fois. Ça.
Yannick faisait à peine 1h, là Dali faisait pareil 1h20, et là on est sur 1h24. Mais voilà, entre août dernier et la sortie de Dali, et finalement le 14 mai, il s'est écoulé très peu de temps, mais on a quand même eu trois Dupieux cette année.
Trois réalisations de Quentin Dupieux, en effet. Il y a aussi un film d'animation qui m'a un peu tapé à l'œil, c'est Skydome 2123. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce film, s'il te plaît?
Ouais, mais surtout que moi j'ai super hâte de le voir. C'est Boris et Angie, les programmateurs, programmatrices du Ciné Saint-Leu, qui ont eu la chance de le voir. Un film qui est passé notamment par Annecy l'année dernière et Berlin en février dernier. Et c'est pas rien, parce que autant Annecy, c'est un festival d'animation. Mais voilà, quand en plus l'animation est sélectionnée dans les grands festivals comme Berlin, c'est d'autant plus intriguant. Et qui est finalement un vrai film de SF, on le compare beaucoup dans la forme et finalement un peu dans le fond à Mars Express, qu'on avait pu vous proposer en fin d'année 2023. On est vraiment sur du film d'animation futuriste, d'anticipation, adulte, hein, du coup, pour le coup. Et un film hongrois en plus, donc on est toujours très content de montrer aussi des films de nationalités différentes. Et donc voilà, donc un film sur où la sécheresse finalement a ravagé la Terre, et sur comment des personnages vont essayer de créer un avenir pour l'homme en 2123. Et voilà, alors ça pour le coup, ce sera vraiment à pas rater. Vous verrez que les semaines du 15 au 4 juin sont un peu... Il y en a pour tous les goûts, mais du coup, ce n'est pas des films qui vont forcément rester longtemps. C'est souvent des films qu'on n'a pas eu la chance de prendre dans le courant du mois d'avril ou début du mois de mai. Donc du coup, on rattrape. Ce qui est le cas de Skydome 2123, et que du coup on aura juste à l'affiche du 22 au 25 mai. Donc ça fait une fenêtre de tir très courte pour venir le voir, mais on espère que vous serez nombreux et nombreuses à faire le déplacement, parce que ça en vaut le coup vraiment.
Et c'est ça aussi qui est bien en même temps avec le Ciné Saint-Leu, c'est que vous avez quand même une temporalité différente sur la diffusion des films, donc on peut rattraper aussi des films qui sont sortis en mars ou en avril au mois de juin. Avant de parler des ciné-cultes, des différents événements que vous allez organiser ce mois-ci, est-ce qu'il y a un autre ou deux autres films sur lesquels tu aimerais revenir?
Mais dans le même genre, on parlait de films d'animation. Alors là, c'est aussi pour adultes, mais aussi pour les plus jeunes, puisque nous, on le conseille à partir de 10 ans. Les 4 âmes du Coyote, qui, pour le coup, est sorti le 15 mai, et que nous, on aura à l'affiche le 29 mai. Donc là, pareil, pour 3 séances, mercredi, samedi, dimanche, qui est un film qui avait été présenté à Annecy, qui fait beaucoup de bruit autour de lui, qui est esthétiquement superbe. Un film, pour le coup, plus... de contes un peu fantastiques. Et donc ça, pareil, on a envie de dire, c'est pas à rater. On aura aussi La Machine à écrire et Autres sources de tracas, qui est le troisième volet d'une trilogie commencée l'année dernière par Nicolas Philibert avec Sur la Danan, qu'il était venu d'ailleurs gentiment présenter et dialoguer à l'issue de la séance chez nous l'année dernière. On avait eu Ave Ores et Rosa Parks il y a quelques semaines, et donc là, du coup, c'est le dernier film de sa trilogie sur, finalement, les pôles psychiatriques à Paris-Centre. Donc voilà, pour ceux qui auraient pu voir sur la Daman et Ave Ores et Rosa Parks, voilà, ne ratez pas le troisième volet, qui là encore est programmé pour deux petites séances du 23... Non, trois petites séances, pardon, du 23 au 27 mai. Donc voilà, marquez-les bien dans vos agendas et venez au Ciné Saint-Leu découvrir tout ça.
Il y a aussi une nouvelle fois le Ciné Saint-Leu qui frappe fort avec le ciné culte, deux réalisateurs cultes, deux films cultes, Million Dollar Baby et Robocop. Est-ce que tu pourrais nous représenter ces films et nous expliquer un peu la particularité de ces séances?
Oui, donc du coup ce sera le 28 mai pour Million Dollar Baby à 18h et le 30 mai à 20h45 pour Robocop. Il y a deux ciné cultes en deux jours, donc voilà, c'est vraiment grosse... Grosse journée patrimoine au Ciné Saint-Leu. Tout d'abord, Robocop, le 30 mai à 20h45. Le film ressort en fait en version restaurée 4K et Director's Cut. Donc le film de Paul Verhoeven où un policier à Détroit, après avoir pris 200 balles dans le corps, hein, parce que la scène est super violente, donc après avoir été comme ça flingué entre guillemets par des méchants, ce gendarme, enfin ce policier va être le premier dans un essai où en fait il va devenir mi-humain, mi-machine et devenir du coup le Robocop que l'on connaît et qui va pourfendre la justice à Détroit. C'est un premier film américain marquant pour Paul Verhoeven, puisqu'avant il avait vraiment tourné qu'en Europe. Il sortait d'un film qui s'appelle La chair et le sang, un film médiéval qui était ressorti par Carlotta l'année dernière, notamment en DVD Blu-ray, qui avait été un échec, mais cuisant, aussi bien critique que public. Il était un peu avec le moral dans les chaussettes, Paul Verhoeven, et tout d'un coup, on lui propose ce film-là en Amérique, et c'est le début d'une nouvelle carrière, puisqu'en plus, après, il fera Starship Trooper, il fera Basic Instinct, et vraiment, il y a tout un autre cycle de ce cinéaste qui néerlandais qui lui est ouvert, et Robocop, finalement, c'est la première pierre à cet édifice-là. Donc on est très contents, surtout quand c'est des versions restaurées, de vous présenter ça en sur grand écran. C'est quand même plus sympa de revoir ces films-là dans ces conditions-là. Donc ça, pour le coup, c'est plus pour le plaisir. On n'a pas résisté à l'envie.
Ah, oui, un réalisateur qui a marqué les années 90 après Robocop, quoi, finalement.
Complètement. Nous, on est aussi des gros fans. On l'avait montré il y a quelques années maintenant, Starship Troopers, quoi, qui est super, qui est pas super bien accueilli à l'époque et qui finalement aujourd'hui est culte. Et...
Un côté rétro qui est, ouais, je trouve, fantastique. Moi j'adore le regarder, ce film.
Puis beaucoup plus intelligent qu'il ne l'y paraît. Je crois que c'est surtout ça la force de Paul Verhoeven, c'est que souvent ces films paraissent abrutissants ou d'un certain public et on se dit ah oui, c'est que du cinéma de divertissement. Et en fait derrière il y a des couches et des couches et des couches de contexte économique, social, politique. Enfin Robocop c'est super politique, quoi. C'est vraiment... c'est un film super engagé et c'est des vrais films d'auteur, quoi, finalement. Donc on est super content quand on peut vous proposer ce genre de film, parce que le cinéma c'est aussi avant tout du plaisir et on résiste jamais au plaisir de vous proposer ces films-là.
On a parlé de Robocop, il y a aussi le ciné culte avec Million Dollar Baby de Clint Eastwood, donc un film culte, un réalisateur culte. Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu ce film?
Alors là, ouais, complètement. Et du coup, cette séance-là, elle prend place dans un dispositif. Pour le coup, c'est pas complètement juste parce qu'on a plaisir de le remontrer. Donc c'est dans le cadre du dispositif Cinéstory, qui est en partenariat avec l'ACAP et le lycée Édouard Branly, où en fin de compte, l'ACAP et le Ciné Saint-Leu et le professeur d'Édouard Branly ont encadré des lycéens, lycéennes, des métiers de la mode et du vêtement du lycée Édouard Branly depuis le début de l'année, dans un rôle d'éducation à l'image, pour leur faire comprendre aussi ce que c'est que le cinéma, comment on regarde du cinéma, comment ça se fait, comment ça se regarde. Et à l'issue de cette année, on leur a proposé du coup de choisir un film et de venir vous le présenter. Et il et elle ont choisi du coup Million Dollar Baby de Clint Eastwood, qui est un film de 2004, du coup déjà maintenant ça commence à faire. Et donc voilà, la séance sera animée par elles et eux, et ils auront le plaisir de vous présenter à la fois la séance, d'animer un débat aussi après. Il y aura des animations en salle. Pour celles et ceux qui étaient l'année dernière chez nous pour la guerre des boutons, c'est voilà le même dispositif, c'est la seconde édition cette année. Et donc Million Dollar Baby, film de et avec Clint Eastwood et Hilary Swank, qui d'ailleurs raflera je ne sais combien de récompenses pour ce rôle, où en fait on va suivre l'entraîneur Frankie Dunn, donc interprété par Clint Eastwood, un peu replié sur lui-même, un peu désabusé, et qui tout d'un coup tombe sur Maggie Fitzgerald, qui a, elle, qui pour le coup a une niaque et la flamme dans les yeux, et qui va le motiver à devenir son coach. Donc voilà, on va les suivre dans cette épopée sportive. Moi, j'ai super hâte parce que je n'ai jamais vu Million Dollar Baby. Donc je vous avoue que le 28 mai à 18h, je serai dans la salle pour découvrir le film. Parce que c'est aussi ça, des fois, les ciné-cultes, c'est culte pour beaucoup de gens. Puis il reste quand même quelques personnes comme moi qui n'ont parfois pas eu la chance ou de voir ces films-là. Donc voilà, on sera ravis de vous le proposer, encore plus dans le cadre de ce dispositif qu'est Cinéstory.
Et c'est donc, oui, en effet, l'avantage des cinécules, c'est de soit redécouvrir ou de découvrir des films qui ont été, dont la sortie a plusieurs années, des dizaines, voire des vingtaines d'années, si ce n'est plus. Et justement, je voulais te demander comment ça se passe, ces deals-là, comment on récupère les droits de diffuser ces films qui ont déjà été diffusés il y a longtemps, finalement.
En fait, il y a plusieurs cas. Dans le cas de Robocop, par exemple, c'est une ressortie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Splendor Films qui décide de restaurer, ou alors qu'il y a des Américains qui ont restauré, et puis du coup, Splendor veut distribuer ça en salle. Donc c'est juste parce qu'en fait, finalement, le film a une seconde vie, et que donc, ce soit à l'initiative d'un producteur ou d'un distributeur. Et du coup, on nous propose ça, et là, du coup, on n'arrive jamais à dire non, parce que c'est trop cool de les revoir sur grand écran, encore plus dans une version restaurée, parce que souvent, vous pouvez vous poser la question, mais il suffit de prendre un DVD chez vous de Robocop, de regarder quelques passages, et quand vous le reverrez en salle, vous verrez qu'à la fois l'image, l'étalonnage, le son aussi sont remixés et remis finalement comme neuf, sans forcément non plus dénaturer, parce que des fois c'est la peur qu'on a dans notre public de se dire « Ah ben oui, mais c'est pas comme je l'ai vu à l'époque ». Si, si, justement, le but, c'est vraiment de vous le remontrer presque comme neuf, mais sans la compression d'un DVD, sans les failles d'un 35 mm qu'aurait maintenant 40 ans. Et donc voilà, et puis parfois c'est aussi à notre initiative, c'est-à-dire qu'en fait les distributeurs, les producteurs gardent les films en stock et parfois il y a des copies qui existent et donc du coup on est en droit de leur demander une copie. Et voilà, dans le cas de Million Dollar Baby, typiquement c'est chez Warner Bros, et ils avaient une copie à nous prêter. Donc,
ils ont un catalogue et vous pouvez le checker.
Exactement, c'est ça. Surtout que la Warner, pour le coup, ils ont fêté leurs 100 ans, donc ils ont fait un gros travail l'année dernière sur leur catalogue pour le remettre aussi au goût du jour et le rendre disponible. Parce qu'il y a des films, typiquement, je vais prendre ma marotte à moi, mais Les Muppets de Jim Henson, qui ont plusieurs films, c'est pas montrable aujourd'hui en France parce qu'il n'y a pas de DCP qui existe, donc de fichiers numériques qui existent pour les diffuser en salle. Donc c'est des films qui, pour l'instant, je l'espère pas super longtemps, mais qui pour l'instant sont pas forcément accessibles aux salles pour être montrés. Donc c'est un peu dommage. Surtout qu'il y a des copies numériques sur Disney+, donc on aimerait bien avoir un DCP pour notre salle un jour et pouvoir vous montrer les Muppets, notamment L'île au trésor des Muppets. Là, je commence à forcer si Boris Thomas m'entend, il va. Mais voilà, on fait comme ça avec les catalogues des distributeurs.
Super, on peut peut-être terminer avec le ciné et musée. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est ce concept et quel film sera mis à l'honneur le 10 juin, le lundi 10 juin?
Oui, en fait, on a eu une petite trilogie ciné et musée là, avec le musée de Picardie qui a une nouvelle exposition qui s'appelle La Somme des Préhistoires, qu'on a eu la chance de visiter avec l'équipe du Ciné Saint-Leu et qui sera jusqu'au 3 ou 4 novembre, je ne sais plus, au musée de Picardie, mais vous avez toutes les infos sur leur site internet et leurs réseaux sociaux. Et du coup, à cette occasion-là, on avait projeté pendant les vacances Cro-Magnon, qui était un film d'animation pour les petits qui prenait place à la préhistoire. On avait projeté le jeudi 16 mai La Grotte des Rêves Perdus, qui est un documentaire de Werner Herzog, où on avait Clément Paris qui était là pour nous parler du film, qui est un archéologue à l'INRAP. Et là, du coup, on a La Guerre du Feu, donc le film de Jean-Jacques Haneau, culte. On a passé Le Nom de la Rose, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Et voilà, je pense qu'entre Le Nom de la Rose et La Guerre du Feu, on a vraiment les deux films les plus cultes de ce cinéaste français qui a été finalement très international dans sa carrière. Et donc La Guerre du Feu, un film de 1981 qui prend place en préhistoire et qui est très particulier parce que finalement il y a des dialogues mais qui sont pas compréhensibles puisqu'en fait il parle une langue qu'on ne parle plus. Il y a même eu un spécialiste qui a vraiment fait en sorte que la langue soit intelligible en fait pour les acteurs qui l'a joué. Il y avait vraiment une langue avec c'est pas juste eux qui disent des barbouillages ou des machins, c'est vraiment une vraie langue avec une conjugaison, une grammaire, mais qui du coup n'est pas compréhensible du spectateur et que Jean-Jacques Haneau n'a pas voulu sous-titrer. Donc on est vraiment sur un film très, très étrange, muet et en même temps pas vraiment, puisque les personnages s'expriment, et qui va comme ça retracer l'épopée d'une tribu d'Homo sapiens partant à la recherche du feu. C'est super intéressant, et du coup on aura Pascal Depaep, qui est archéologue, docteur en préhistoire et directeur scientifique et technique de l'INRAP, qui sera là à l'issue de la projection, toujours en partenariat avec le musée de Picardie, pour vous apprendre davantage, faire des points avec le film, parfois vous dire aussi ce qui est plus ou moins de la fiction et ce qui est plus ou moins concret par rapport à ce que le film peut montrer, parce qu'on le sait, le cinéma, que ce soit la Guerre du Feu est avant tout une fiction, donc bien sûr ils ont fait appel à des professionnels, mais j'imagine qu'ils ont aussi pris des libertés pour le bien de la narration du film. Donc voilà, Pascal Depaep sera là pour vous répondre à toutes vos questions et vous en dire un peu plus sur la préhistoire, et surtout vous donner envie d'aller voir l'exposition au Musée de Picardie.
Un mélange entre fiction, vulgarisation historique, aussi archéologique plutôt, puis une des forces aussi de ce réalisateur qui est de créer des fictions dans des univers historiques finalement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur cette très riche programmation?
Non, si ce n'est qu'on vous attend. Pour le coup, ce mois-ci, autant peut-être qu'il y avait des programmes il y a deux ou un mois étaient plus condensés, il y avait des grosses sorties. Donc là, il y a à boire et à manger. Je pense que même en termes de continent, de genre, d'époque, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, on espère que vous trouverez de quoi venir au Ciné Saint-Leu. En tout cas, on fait tout pour.
J'ai entendu dire aussi que tu allais descendre à Cannes.
Oui.
Qu'est-ce que tu vas y faire à Cannes? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Alors en fait, il y a plusieurs membres de l'équipe qui descendent à Cannes. On y descend déjà, les programmateurs, programmatrices, Angélique et Boris, vont à Cannes, notamment pour des rencontres professionnelles. En fait, il y a tout un l'AFCAE, qui est une sorte d'institution d'État qui coordonne toutes les salariés de France, qui est là pour aussi être un facilitateur, donner accès aux films et ainsi de suite. Donc nous, on est adhérents à l'AFCAE. Ils organisent des grandes rencontres nationales à RSC à Cannes. Donc il y a Angélique et Boris qui descendent. Et puis aussi, nous, on y descend pour voir les films en avance, c'est savoir, entre guillemets, qu'est-ce qu'on aura envie de vous montrer. Parfois aussi, entre guillemets, déjà rencontrer les distributeurs et un film qu'on voit à Cannes et qui sortirait en septembre-octobre, lui dire, bah tiens, nous, on aimerait vraiment le passer, faisons en sorte que ce soit le cas, et puis même pourquoi pas déjà dire qu'on serait très heureux de recevoir un réal, une équipe de films, des acteurs, des actrices. Enfin voilà, c'est aussi un tout d'un coup il y a tout le cinéma à Cannes, quoi, donc c'est super intéressant.
C'est pour
nous.
Ça que vous y êtes aussi, du coup?
Oui, voilà, comme j'imagine les établissements de théâtre vont à Avignon, et donc voilà, nous, c'est vrai que c'est une grande messe, Cannes, et puis il y a aussi plein de sections parallèles, hein, on en parle un peu moins souvent, mais il y a Un Certain Regard, la Semaine de la Critique, la Quinzaine des Cinéastes, la CID, qui sont en fait des sections parallèles qui ont lieu pendant Cannes, qui ne sont pas pour le coup choisies par Thierry Frémaux et son équipe de comité de visionnage, mais qui ont aussi parfois des films, enfin nous, je sais que la Semaine de la Critique et la Quinzaine des Cinéastes, ils ont un regard qui nous plaît énormément, ils vont chercher des nationalités toujours plus diverses que variées, et donc voilà, c'est aussi des endroits, et puis on peut surtout voir des films des fois 6 à 8 mois avant leur sortie, et ça, dans un travail de programmateur-programmatrice, c'est super important d'avoir cette vision-là sur le lointain.
À titre personnel, est-ce qu'il y a des films qui vont être proposés à Cannes ou que tu vas avoir la chance de voir, que tu as hâte de visionner?
Alors, je suis un peu... Mais alors, Deg, c'est des problèmes de privilégiés en vrai. Mais moi, j'arrive trop tard pour le Coppola. Donc voilà, c'est Angélique et Boris qui auront le plaisir de découvrir Mégalopolis, la nouvelle fresque épique de Coppola, qui en plus, ça fait 30-40 ans qu'il en parle de ce film-là. Il n'a jamais réussi à le produire, à le faire correctement. Là, ça y est, c'est enfin le cas, donc on a très hâte de voir ça sortira en septembre, si je dis pas de bêtises. Et puis non, moi, dans ce que je pourrais sûrement voir, je vais voir le David Cronenberg qui sort au mois de septembre, Les Linceuls, avec Vincent Cassel et Diane Kruger. Ça, on a très hâte, parce qu'en plus Cronenberg, c'est un cinéaste qu'on aime énormément au Ciné Saint-Leu, qui a un vrai auteur, qui a un vrai regard, enfin auteur au sens vraiment qui a des thématiques récurrentes dans chaque film, quoi, quand... Je lui souhaite le plus tard possible, mais quand un jour il sera plus là et qu'on prendra son premier et son dernier film, il y aura forcément des choses à écrire, à regarder, à découvrir, à faire des ponts entre ces films. Enfin, c'est des cinéastes qui sont passionnants. Et puis du côté des Français, on a aussi, j'ai peur d'écorcher son prénom, mais Colin Fargia, qui avait sorti Revenge il y a quelques années et qui là revient avec un deuxième long métrage, notamment avec Demi Moore et Margaret Qualley. Donc un film en plus de ça international. Qu'on a hâte de découvrir, d'une jeune réalisatrice française très prometteuse. Donc voilà, et puis il y aura sûrement aussi La Beauté de Cannes, c'est aussi d'aller voir un film dont on n'a pas forcément connaissance et puis tout d'un coup prendre une claque, quoi. Donc on a hâte aussi d'être pris un peu au dépourvu par les propositions cannoises.
Chouette, et bien, très bon séjour à Cannes.
Merci, à
merci d'être passé ici pour nous présenter la programmation du Ciné Saint-Leu du 15 au 18 juin. Et on se retrouve le mois prochain pour nous parler de la programmation de la mi-juin à la mi-juillet, j'imagine, à moins que vous ayez une programmation qui court jusqu'à août.
Il y a des chances que celle-ci, que la prochaine s'arrête sur mi-juillet, et puis qu'après on vous fasse un programme pour l'été, juillet-août, comme on a l'habitude de le faire. Ouais.
Super, merci à toi William, à la prochaine.
Merci à toi, à très vite.
Pour rappel, nous étions avec William Tessier, chargé de communication et médiateur culturel au Ciné Saint-Leu. Il est venu nous présenter la programmation du Ciné Saint-Leu du 15 mai jusqu'au 18 juin 2024. N'hésitez pas à rester connecté sur leur site internet afin d'en savoir plus. Je vous propose désormais, pour terminer cette émission, l'épisode 5 de la série consacrée à l'e-sport, produit par Sarah Raymond, étudiante du master journalisme de l'UPJV. On se retrouve demain à midi, à bientôt.
Mon fils, tu crois que parce que tu joues à tes jeux de course de voiture, tu vas devenir pilote de course pour de vrai ?
Vous n'avez pas les compétences requises.
T'aurais dû rester chez toi derrière ton écran.
Les autres pilotes sont des professionnels, ça marchera pas.
T'as la trouille, une bande de petits gamers.
Vous venez d'écouter un extrait de la bande-annonce du film Gran Turismo, sorti en France le 9 août 2023. Dans les épisodes précédents consacrés à l'univers du e-sport, j'ai tenté de comprendre avec vous en quoi l'e-sport était finalement frontalier avec le sport. Mais parfois, du jeu vidéo à la réalité, il n'y a qu'un pas. C'est l'histoire incroyable de Yann Mardenborough. Vous écoutez Virtual Vortex, les héros du clavier. En 2010, à l'âge de 19 ans, Yann Mardenborough abandonne ses études d'ingénieur spécialisé dans les sports mécaniques après seulement 3 semaines à l'université. Sans but précis pour l'avenir, il se retrouve chez ses parents à Cardiff, se sentant isolé alors que ses amis poursuivent leurs études ou voyagent. C'est à ce moment qu'il décide de participer à la GT Academy, un programme développé par Nissan et Sony, offrant aux pilotes virtuels la possibilité d'une carrière réelle. Mais comment un joueur de jeux vidéo a-t-il pu réussir cette transition du virtuel à la réalité des courses automobiles ? Découvrons-le ensemble. Déterminé à réaliser son rêve de devenir pilote, Yann se lance dans la compétition avec pas moins de 90 000 autres participants du monde entier. Il remporte la compétition en 2011, lui donnant ainsi l'opportunité de piloter lors d'une course sur le circuit des 24 heures de Dubaï, où il termine 3e. Les débuts de Yann avec l'écurie japonaise ont été prometteurs. Malgré des débuts plus difficiles en monoplace, avec des résultats moins brillants en Formule 3, Yann a persévéré. Ses succès aux 24 heures du Mans et en GP3 ont marqué des étapes importantes dans sa carrière, même s'il n'a pas toujours atteint les sommets espérés. Il doit faire face à des problèmes physiques, son corps n'étant pas habitué aux rigueurs de la compétition automobile. En 2015, un événement tragique bouleverse sa vie. Lors d'une course en Allemagne, sa voiture quitte la piste, franchit les barrières de sécurité, entraînant la mort d'un spectateur et blessant gravement 2 autres personnes. Malgré cette tragédie, Yann poursuit sa carrière pendant 10 ans avant de récemment rejoindre l'agence MB Partners, où il envisage de nouvelles perspectives dans le monde du sport automobile. Après avoir donc quitté le monde du Super GT en 2020, on le retrouve dans d'autres manifestations. On le retrouve par exemple en mai 2023, aux 24 heures de Fuji de la série Super Taikyu, où lui et son équipe ont réalisé une performance en se classant 4e. À l'heure où je vous parle, il semblerait qu'il ait repris finalement ses racines dans la simulation de course, apportant son expertise au développement du simulateur de Formule E de Nissan. Alors oui, on est loin de la performance d'un Max Verstappen ou d'un Lewis Hamilton, mais son histoire, bien que semée d'embûches, peut être une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de réaliser l'impossible. Quant à moi, il est temps de vous laisser, en vous remerciant d'avoir écouté ce podcast dédié à l'e-sport. Je vous dis à bientôt.